Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en français sous le titre « C'est et pour ton bien ». Racine de la violence dans l'éducation de l'enfant, cet essai de la psychanalyste Alice Miller interroge les effets durables des violences exercées au nom de l'éducation. Son objet ne se limite pas aux sévices manifestes. Il examine aussi punition, humiliation, menace, manipulation affective et négation des émotions de l'enfant lorsque ces pratiques visent à imposer une obéissance sans réserve. Miller reprend et développe la notion de pédagogie noire pour désigner cette tradition éducative autoritaire. Elle soutient que les souffrances précoces, lorsqu'elles sont niées et refoulées, peuvent contribuer à des conduites destructrices envers soi ou autrui à l'âge adulte. Pour étayer son propos, elle confronte des textes historiques sur l'éducation à plusieurs études de cas, dont une analyse controversée de Hitler. L'ambition du livre est à la fois psychologique, historique et sociale, rendre visibles des violences longtemps présentées comme normales, et penser les conditions de leur transmission entre générations. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la pédagogie noire comme technologie de soumission éducative, le concept central du livre est la pédagogie noire. Expression employée pour décrire des méthodes éducatives qui cherchent moins à accompagner la maturation de l'enfant qu'à dompter sa volonté. Miller analyse une tradition où la docilité est tenue pour une vertu suprême et où la peur devient un instrument de formation. Les coups, les punitions imprévisibles, les humiliations, les privations et les injonctions au silence ne sont donc pas traités comme de simples excès individuels. Ils relèvent d'une logique qui fait de la dépendance de l'enfant une occasion de contrôle. L'enfant ne peut ni se défendre efficacement, ni quitter les adultes dont il dépend. Il est ainsi poussé à interpréter comme nécessaire ou mérité ce qui lui fait mal. Les textes pédagogiques des 18e et 19e siècles cités par Miller donnent une épaisseur historique à cette critique. Il montre que la contrainte pouvait être explicitement recommandée pour obtenir une obéissance précoce et totale. Le livre ne soutient pas que toute règle constitue une violence. Sa cible est une autorité qui exige la soumission en sacrifiant la dignité, les besoins et la perception propre de l'enfant. Cette distinction permet de questionner des gestes éducatifs banalisés sans confondre cadre protecteur et domination. Deuxièmement, le refoulement des émotions protège la survie de l'enfant mais entretient la blessure. Miller décrit un mécanisme psychique décisif face à des adultes aimés et indispensables, mais aussi violents ou humiliants. L'enfant ne peut généralement pas reconnaître pleinement sa colère. Admettre que ses parents lui nuisent menacerait son sentiment de sécurité et son lien de dépendance. Il tend alors à retourner la faute contre lui-même, à idéaliser les adultes ou à oublier ce qui a été vécu. La douleur et la rage ne disparaissent pas pour autant. Elles sont écartées de la conscience, ce qui permet une adaptation immédiate mais laisse intacte la trace du traumatisme. Cette perspective éclaire pourquoi certains adultes peuvent minimiser des expériences pourtant blessantes en les présentant comme normales ou formatrices. Pour Miller, la formule selon laquelle une punition a fait du bien masque souvent le besoin de préserver une image acceptable des parents et de sa propre enfance. Le livre insiste ainsi sur le coût de la loyauté familiale lorsque celle-ci interdit de nommer la cruauté. Son argument ne réduit pas chaque difficulté adulte à un événement infantile isolé. Il propose plutôt que les affects refoulés, surtout lorsqu'ils furent vécus sans soutien ni témoin, peuvent organiser durablement la relation à soi, aux autres et à l'autorité. Troisièmement, de la violence reçue à la reproduction familiale et sociale, l'essai formule une thèse forte sur la transmission de la violence. L'adulte qui a subi des traitements dégradants sans pouvoir les reconnaître risque de les répéter, non nécessairement de façon consciente ni identique, auprès de ses enfants ou de personnes plus vulnérables. La répétition peut prendre des formes physiques, verbales ou affectives, brutalité, chantage, mépris des pleurs, besoin d'imposer une obéissance immédiate. Selon Miller, le parent peut alors utiliser l'enfant comme réceptacle de sentiments anciens qu'il ne parvient pas à relier à sa propre histoire. Cette analyse refuse à la fois la condamnation simpliste des parents et leur déresponsabilisation. Comprendre que des adultes ont eux-mêmes été blessés aide à saisir la persistance du phénomène, mais ne transforme pas la violence en fatalité ni en excuse. Le raisonnement est également social, une collectivité qui banalise les corrections violentes, protège systématiquement le prestige parental ou tourne en dérision la souffrance enfantine contribue à maintenir la chaîne. Miller relie ainsi l'intimité familiale à des manifestations plus larges de soumission, de brutalité et de recherche de bouc émissaire. Son modèle est volontairement général et a suscité des débats, notamment lorsqu'il est appliqué à des violences collectives. Sa valeur principale est de déplacer la question au lieu de voir la brutalité comme un trait inné. Il invite à examiner les apprentissages émotionnels et relationnels qui la rendent pensable. Quatrièmement, le témoin lucide comme rupture possible dans le destin traumatique. Face à une vision parfois sombre de la reproduction des blessures, Miller accorde une fonction essentielle au témoin lucide. Il peut s'agir de toute personne capable de reconnaître clairement que l'enfant maltraité ou humilié ne porte pas la responsabilité de ce qui lui arrive. Cette présence ne se confond pas avec une sympathie vague. Elle suppose de croire la perception de l'enfant, de ne pas justifier la violence par les intentions éducatives et de nommer ce qui porte atteinte à son intégrité. Un enseignant, un soignant, un proche ou un professionnel peut remplir ce rôle, à condition de ne pas reconduire le déni social. Cette idée donne une portée concrète au livre « Le changement ne dépend pas uniquement de la prise de conscience tardive de la victime, mais aussi de la qualité des réponses que les adultes apportent pendant l'enfance. » Le témoin aide l'enfant à conserver une représentation plus juste de ce qu'il vit et limite l'intériorisation de la honte. Miller associe également la sortie du cycle à la possibilité, pour l'adulte, de retrouver ses émotions refoulées dans un cadre sûr. Cette proposition relève de son cadre psychanalytique et ne constitue pas un protocole thérapeutique détaillé. Elle met néanmoins en évidence une exigence éthique claire, écoutée sans minimiser, est une forme de protection, tandis que le silence peut renforcer l'isolement et la confusion. En dernier lieu, les études de cas et les limites d'une explication centrée sur l'enfance, Miller ne présente pas son argument sous la forme d'un manuel de parentalité. Elle combine analyse historique, réflexion psychanalytique et portrait de personnes aux trajectoires très différentes, notamment Christian F., un jeune auteur d'infanticide et Adolf Hitler. Ces cas ont une fonction démonstrative montrée comment le déni de la souffrance enfantine peut se transformer en autodestruction, en violence dirigée contre autrui ou en adhésion à des structures autoritaires. Le recours à Hitler donne au livre une portée politique frappante, car Miller cherche à penser les conditions psychiques de la soumission et de la cruauté de masse. Cette partie exige cependant une lecture critique. Une psychobiographie ne peut expliquer à elle seule un régime, une guerre ou un génocide, qui implique aussi des facteurs historiques, idéologiques, économiques et institutionnels. De même, toutes les personnes y ayant subi des violences ne deviennent ni violentes ni malades, et des comportements destructeurs peuvent avoir des causes multiples. Le livre se distingue moins par une démonstration causale exhaustive que par sa dénonciation du déni entourant les expériences enfantines. Ces généralisations, parfois catégoriques, constituent donc à la fois sa force polémique et sa principale limite. Les lecteurs gagnent à retenir son exigence de prendre les blessures précoces au sérieux, tout en évitant de convertir chaque biographie ou chaque phénomène collectif en conséquence automatique de l'enfance. En conclusion, c'est, et pour ton bien convient, aux lecteurs intéressés par la psychologie de l'enfance, la violence éducative, la transmission familiale des traumatismes et l'histoire des normes de parentalité. Il peut être particulièrement utile aux parents, futurs parents, enseignants, éducateurs et soignants, non comme guide pratique prêt à l'emploi, mais comme instrument de vigilance. Il oblige à distinguer la protection et la pose de limites d'une part, de l'humiliation, de la peur et de la négation émotionnelle d'autre part. Il peut aussi aider des adultes à reconsidérer certains récits familiaux, trop facilement réduits à une éducation normale ou nécessaire. Une telle lecture demande toutefois de la prudence et peut être émotionnellement éprouvante pour des personnes concernées par des violences dans l'enfance. Un accompagnement professionnel peut alors être préférable à une interprétation solitaire de son histoire. Dans son domaine, le livre se distingue par la radicalité de sa question morale que devient une société lorsque la souffrance des enfants est justifiée au nom de leur bien. Là où de nombreux ouvrages contemporains proposent des techniques éducatives ou des conseils de communication, Miller examine les racines historiques et psychiques de la volonté de soumettre. Ses études de cas et ses affirmations générales ne remplacent pas les connaissances actuelles sur le traumatisme, dont les approches sont plus nuancées et multifactorielles. Mais la force durable de cet essai tient à son refus de banaliser les violences ordinaires et à son insistance sur la nécessité de croire, protéger et respecter l'enfant. Si vous souhaitez soutenir Alice Miller, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.